bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'émission Tournepage et nous sommes aujourd'hui avec Alain Bouzy.
Bonjour.
Bonjour Alain, qui va nous présenter son dernier ouvrage qui s'appelle Les Imposteurs, Le Laboureur, Le Roi et l'Ange, édition de Boré. Donc vous pouvez nous présenter ce dernier opus.
C'est une histoire vraie qui se situe à l'époque de la Restauration, donc après Napoléon. C'est le retour des Bourbons au pouvoir. Les Bourbons, c'est Louis XVIII, puis son frère Charles X. Et l'histoire se passe à Galardon, donc dans le nord-est du département. Un brave paysan, un haricotier, puisque là-bas on cultive le haricot et les lentilles surtout, mais aussi la vigne et les pommes. Ce brave paysan, au mois de janvier, dans son champ, il est en train d'étendre du fumier, et un personnage lui apparaît, il ne le connaît pas, il ne sait pas qui c'est, et ce personnage lui dit que lui, Martin, Thomas Martin, c'est son nom, doit aller voir le roi pour lui dire que son royaume court à sa perte s'il ne reprend pas les choses en main.
Mais alors, ce personnage lui apparaît physiquement ?
Ce personnage lui apparaît physiquement, et on saura plus tard, alors peut-être qu'on en reparlera, ce qu'il est. Est-ce que c'est un personnage réel ? Est-ce que c'est une apparition ? Lui ne le sait pas au début.
D'accord.
Il en est très effrayé. Il va parler de cela à son frère. Il a un frère aîné, Jacques, qui a une dizaine d'années de plus que lui. Et ce frère aîné, tel que les choses lui sont racontées par son frère cadet, l'inquiète. Et on va en parler à Monsieur le curé de Galardon. Monsieur le curé de Galardon, c'est le curé La Perruque, qui au début prend les choses avec un peu de distance. Il lui dit il faut manger modérément et boire modérément. Donc il faut se calmer un peu. Sauf que ces apparitions vont se reproduire presque tous les jours. Et là, la pression va être de plus en plus grande. Il faut vraiment que vous alliez voir le roi. Il y a de mauvaises gens qui atteignent à sa personne, à ses frères. Parce que le roi Louis XVIII a un frère, donc le comte d'Artois, futur Charles X. Ce Charles X a des fils, le duc d'Angoulême et le duc de Berry. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'ils ont une importance dans l'histoire. Et l'affaire commence à être ébruitée à Galardon. Galardon, bourg jacobin, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire un bourg républicain, peut porter sur la monarchie et encore moins porter sur la religion. Et donc ce personnage, Thomas Martin, qui lui est un bon chrétien, un des rares de la paroisse, est l'objet de moqueries, de railleries dans un premier temps. Après, les choses s'aggraveront. Et donc, l'affaire commence à avoir une petite notoriété.
Mmh. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vers... c'est Thomas Martin. Comment vous l'avez rencontré, ce Thomas Martin ?
Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de replacer les histoires de leur contexte. Je pars toujours d'une histoire locale, mais ce n'est pas le régionalisme qui m'intéresse. Moi, j'essaie de ne pas écrire des livres régionaux, même s'ils parlent aux gens de la région. Sur la bande d'Orgères, la loi de la guillotine, je m'étais intéressé au Directoire, donc cette période qu'on ne connaît pas bien entre la Révolution et l'Empire. Il y a une dizaine d'années, là où on a l'impression que les choses flottent un peu. Donc ça, c'était l'histoire de la bande d'Angers. Et là, on est sous la Restauration des Bourbons. Ce n'est pas des Bourbons très sexy, hein, évidemment. Louis XVIII et Charles X, ça ne fait pas
fantasmer les foules. Ça ne fait pas rêver.
Ce n'est pas Marie-Antoinette, c'est pas Marie-Antoinette ou Louis XIV ou Napoléon.
Voilà.
Mais moi, c'est justement ça qui m'intéresse, parce que ce n'est pas bien exploré. Les documents ont été étudié, mais pas toujours à fond.
Mais quand même, il faut tomber sur cette... alors, c'est pas une anecdote, mais sur ce fait-là. Comment vous tombez dessus ? Enfin,
Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc je croise souvent ces personnages un peu atypiques. Et justement, quand j'ai l'impression qu'on ne leur a pas rendu hommage, j'essaie de corriger le tir. Par exemple, je trouve que le Thomas Martin de Galardon a été injustement moqué, voire violenté d'une certaine façon. On parlera peut-être de la façon dont il meurt tout à l'heure. Et donc, justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de refaire le procès, en fait, même si lui, il n'y a pas eu de procès dans son cas. Il y en a eu un dans le cas de la bande d'Angers, mais là, il n'y a pas de procès, mais de réinstruire son histoire à la lumière de ce que je sais des documents, à la lumière des archives que je vais puiser.
Mais justement, oui, vous allez les puiser où, ces infos? Enfin, comment vous... Parce que c'est très riche, c'est très dense, c'est très... C'est quand même très fouillé, il y a énormément d'informations. Donc
Cette histoire a eu un impact considérable en France et à l'étranger dans les 20 ans de vie de Thomas Martin. Il y a eu beaucoup de libelles, enfin de manuscrits qu'on s'envoyait par la poste, mais aussi de livres dès 1817, c'est-à-dire... l'année d'après la première apparition, il y a un livre qui est publié et qui raconte l'histoire extraordinaire de Thomas Martin, qui a vu en apparition ce qu'on va apprendre être un ange, puisque au bout d'un certain temps d'incrédulité, le personnage qui lui apparaît lui révèle sa personnalité. Je suis l'archange Raphaël. Donc, alors évidemment, où on croit aux anges, on n'y croit pas. Donc, pour ma part, je n'y crois pas. Mais l'intérêt de cette histoire, c'est de savoir qui manipule Thomas Martin, puisqu'il s'agit d'une manipulation.
Bien sûr. Et alors ?
Et alors ? Ben oui. Oui, mais si je vous dévoile tout, il n'y aura plus d'intérêt à lire le livre.
Ben non.
Alors,
non.
Il y a une manipulation. C'est une époque troublée sur le plan politique, hein, puisque l'Empire a sombré dans le sang de Waterloo. Louis XVIII a été rappelé, parce qu'on dit la restauration des Bourbons, c'est plutôt une instauration qu'une restauration, parce que le comte de Provence, donc le futur Louis XVIII, est rappelé par les sénateurs à majorité encore bonapartistes. Donc on appelle ce prince qui a vécu en exil pendant 23 ans pour sauver le royaume, puisque là on est proche de la catastrophe. Le royaume est occupé par les empires coalisés, donc la situation est catastrophique. Mmh. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour prendre le pouvoir. On a pensé un moment à Louis-Philippe d'Orléans, qui deviendra Louis-Philippe Ier plus tard, mais sous l'influence des Anglais, on choisit Louis XVIII. Et donc c'est Louis XVIII qui va, au bout du compte, peut-être rencontrer notre personnage, parce qu'il va se passer un certain temps avant qu'on prenne Thomas Martin au sérieux. Donc il va rencontrer le curé qui prend en note toutes les apparitions, précisément que dit ce personnage, donc que dit l'ange. Mais le curé se rend bien compte que l'histoire dépasse sa compétence et envoie son paroissien à Versailles, chez l'évêque de Versailles, puisque en 1816, le diocèse de Chartres a été fondu dans le diocèse de Versailles. Il n'y a pas d'évêque à Chartres, donc il faut aller à Versailles. L'évêque de Versailles lui pose la question: qu'est-ce que veut votre homme, votre... Alors Martin dit: il veut que j'aille au roi. Ah, dit l'évêque, si c'est aller au roi, c'est pas de ma compétence. Sous-entendu, c'est une affaire politique, moi je ne veux pas me mêler de ça.
Je ne me mêle pas de ça.
Donc allez voir le préfet, puisque c'est une affaire politique. Et donc Thomas se retrouve à Chartres chez le comte de Breteuil, le préfet. Et le préfet lui fait une grande pression. Il essaie de savoir si c'est un imposteur ou non, d'où le titre « Les imposteurs ». Alors il lui dit: mais vous vous rendez bien compte de ce que vous faites, parce que là vous mettez en cause la personne du roi, vous dites qu'il est menacé, mais menacé par qui? Y a-t-il un attentat? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qui vous inspire? Qui vous manipule? Vous savez qu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté. Le crime de lèse-majesté est passible de la peine de mort. Donc le préfet de Chartres fait une très grande pression.
Mais la pression, oui.
Et le Thomas Martin ne dévie pas du tout. Je dois aller voir le roi. Je suis chargé d'une mission. J'ai des choses à lui dire. Mais quoi? L'archange m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Les choses me viendraient naturellement quand je serai en présence du roi. Alors cette réponse ne satisfait personne. Mm-hmm. Le préfet se dit, moi, je ne peux pas prendre ça sous ma responsabilité, je l'envoie au ministre de la Police. Le ministre de la Police, c'est Élie Decazes, qui est l'un des personnages très importants du royaume à ce moment-là, parce que Louis XVIII est un homme fatigué, malade, vieillissant, qui n'a pas toutes ses facultés toute la journée, surtout à la fin de son règne, puisqu'il meurt en 1824. Et le ministre de la Police, lui, qui est jeune, dynamique et qui ne s'en laisse pas compter, et qui est un esprit pragmatique, franc-maçon, donc les anges, il n'y croit pas, il fait examiner Thomas Martin par un médecin, un des plus grands spécialistes de l'époque, qui est le docteur Philippe Pinel, qui est ce qu'on appelle un aliéniste, bon, c'est en fait un psychiatre, mais à l'époque, on n'utilise pas ce terme. Et le docteur Pinel constate qu'il y a une petite hallucination des sens. Il ne charge pas la barque, où il dit il y a une hallucination des sens, ça mérite un examen plus approfondi. Et le ministre de la Police saisit la balle au bon à Charenton. À Charenton, c'est l'asile chez les fous. Donc à partir de ce moment-là, l'affaire prend une toute autre mesure, dimension, parce qu'évidemment, s'il est fou, il est fou. Sauf que l'affaire ne se termine pas là.
Elle se termine pas là.
Parce que beaucoup de gens ont eu vent de ces apparitions, de ces messages alarmants. L'Église, des hauts personnages de l'Église, parce que le curé La Perruque, qui n'est pas du tout satisfait de la réponse de l'évêque de Versailles, qui ne veut pas en entendre parler, prend sa plus belle plume et écrit au grand aumônier. Le grand aumônier, c'est un des proches de Louis XVIII, c'est Monseigneur de Talleyrand-Périgord. Alors, c'est le même nom que son neveu, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le célèbre et sulfureux ministre de Napoléon, puis de Louis XVIII, donc son oncle. Et le grand aumônier, c'est un homme assez vieillissant, et qui, lui, est assez impressionné par cette histoire et va en parler au roi.
Oui, c'est étonnant quand même que cette histoire arrive à bousculer autant les personnes de l'époque quand même. Aujourd'hui, il aurait fini tout simplement à l'asile, non ?
Alors,
il n'y aurait pas eu de suite.
Moins surprenant que cela, parce que le pays est dans un très grand trouble. Il faut bien considérer que l'Empire et la chute de l'Empire a beaucoup traumatisé les esprits, et que le pays est encore... il chancelle entre les bonapartistes et les républicains. Parfois, ils se recoupent un peu les uns les autres. Disons, les progressistes, on dirait aujourd'hui, et les conservateurs, qui est un mot moderne, les conservateurs qu'on appelait à l'époque les ultras. Les ultras, c'est les ultramontains, c'est-à-dire ceux qui sont pour au-delà des Pyrénées. Au-delà du Pyrénées, c'est le pape. Donc, c'est les gens qui croient à l'Église catholique éternelle. Donc il y a encore cette frange de pensée là. Et donc les esprits sont très perturbés. On ne sait pas vers quoi va le pays. Parce qu'on a restauré les Bourbons, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette restauration des Bourbons. Donc, et puis alors, il faut ajouter à ça des querelles religieuses. Querelles religieuses entre les jésuites et les jansénistes. Les uns sont plus politiques, les jésuites, proches du pouvoir. On sait qu'un siècle avant, sous Louis XIV, ils avaient été chassés. Et puis les autres, les jansénistes, qui sont pour un retour à une église beaucoup plus traditionnelle, disons dans le sens de l'église du Christ, l'église dans sa modestie, dans son refus du politique, une église authentique. Donc ça, entre les jésuites politiques et les jansénistes christiques, le terrain est miné. Et donc justement...
Terrain miné et du coup favorable à ce qu'on s'intéresse de plus près, à ce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe.
Oui, parce que petit à petit, l'enquête prouve que les jansénistes seraient bien à la manœuvre. Déjà, il y a un indice, le premier livre dont je vous parlais tout à l'heure, de 1817 sur Thomas Martin, est édité par une maison d'édition qui s'appelle Aigron et qui est une maison janséniste. Donc ça donne une piste. Donc on peut penser que, en effet, les jansénistes sont à la manœuvre parce qu'ils veulent aussi porté atteinte aux jésuites qui ont repris du poil de la bête dans l'entourage de Louis XVIII, puis de Charles X, parce que Charles X sera même accusé d'être lui-même un jésuite, ce qui n'est pas le cas.
Très bien. Ben, en tout cas, c'est passionnant, c'est riche, hein, riche de petites de petits compléments de
notes.
De notes, voilà, merci. Et voilà, donc nous retrouverons Alain Bouzy le 21 décembre 2018 à partir de 15h à la librairie du coin où il pourra continuer de vous parler de Thomas Martin. Et voilà.
Mais je ne vous dis pas dans quelles conditions il mourra à Chartres en 1834. C'est le suspense du livre.
Merci à tous deux pour notre émission Tourne-Page.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.